Bonjour, bienvenue dans notre 35e émission. Et aujourd'hui, nous allons rester en Italie, mais nous allons étudier une peinture particulière et un peintre qui est aussi très particulier. Je vous conseille de vous mettre aussi au cours de l'émission ou après d'aller sur vos ordinateurs ou sur vos tablettes pour regarder ces fameux tableaux. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la métaphysique de Giorgio de Chirico. En peinture, les avant-gardes italiennes sont un ensemble de mouvements artistiques qui sont apparus donc au début du XXe siècle. C'est une volonté de rompre avec les traditions académiques, en réponse aussi avec les bouleversements modernes, la Première Guerre mondiale, la vitesse, l'industrialisation, l'urbanisation. Et le début de ces avant-gardes, c'est le mouvement du futurisme, 1909, lancé par Filippo Tommaso Marinetti. Alors, les caractéristiques de ces mouvements, c'est une volonté de rompre avec le passé, rejet de la tradition, de l'académisme, exaltation de la modernité, c'est la vitesse, automobile, l'aviation, d'où une peinture qui sera l'aéro-peinture, l'aviateur et le guide de la modernité. Interprétation aussi particulière du mouvement, et puis ce sont les machines, l'électricité qui donnera un arc mécanique. Représentation du dynamisme, les peintures expriment le mouvement, mais aussi engagement idéologique pour transformer la société. Alors, Giorgio de Chirico, peinture métaphysique, en italien pictura metaphysica, vision énigmatique, introspective, atmosphère étrange, silencieuse, avec dans ses peintures des places urbaines désertes, inspirées des villes italiennes. Arcades, statues antiques, perspectives profondes. Tout semble figé, hors du temps. On aperçoit des trains lointains, des mannequins sans visage, des instruments. Il n'y a pas de logique apparente. Dans un sentiment de solitude, de silence, de rêve éveillé. Cette peinture naît autour de Giorgio de Chirico, dont personnage important pour la première moitié du XXe siècle en Italie et en Europe. Autour de 1909, c'est une démarche différente de celle du futurisme, mais sans opposition, c'est une direction différente. Changer la perception du monde, une approche spirituelle. Si le futurisme est une pratique révolutionnaire de l'avant-garde, De Chirico, lui, à l'inverse, revient au métier entre guillemets, c'est-à-dire pratique des règles académiques, retour à l'ordre, des touches lisses, transformation de l'espace, perception de l'espace, mais il ouvre aussi la voie à l'exploration du mystère. Depuis le début, la peinture a suivi, depuis ses origines, la peinture a suivi le principe du naturalisme, d'après le traité d'Alberti sur De Pictura. C'est l'art de la transcription du réel, de ce que l'on voit. Et à la fin du XIXe siècle, les impressionnistes tentent de restituer les paysages à la lumière. Le tableau est le reflet du visible, on retranscrit la lumière visible par l'œil. Il faudra attendre les Nabis avec Maurice Denis, pour avoir une autre approche, une autre définition de la peinture. Mais quelque chose échappe au regard humain, et De Chirico va développer ainsi l'étrangeté, l'irrationnel, le porte la part mystérieuse des choses, qui échappe au regard humain, esthétique de l'étrangeté, de l'irrationnel. En 1909-1910, développement de la pensée freudienne, qui va influencer donc la peinture, lien entre le rêve, l'enfance et l'expression artistique, autre modèle derrière les apparences, d'où le nom de métaphysique. Autre monde derrière les apparences, d'où le nom de métaphysique. Peinture non pour savourer, mais pour penser, poésie exceptionnelle. Alors, De Chirico, Giorgio, né en 1888, il va mourir en 1978, il est né en Grèce, d'une famille d'émigrants italiens. Il va voyager beaucoup, Athènes, en Italie. En 1906-1909, il est à Munich, se passionne pour la philosophie, on y reviendra. Il voyage en Italie, il est à Milan en 1909, et là il va bien sûr examiner et retrouver l'architecture antique, la sculpture antique. Voyage à Paris où il va rencontrer les peintres du moment, Derain, Léger, Picasso, avec lequel il aura beaucoup de contacts, Braque et le poète Apollinaire. En Italie, c'est la Première Guerre mondiale, rencontre donc avec l'artiste futuriste. En Italie, Première Guerre mondiale, et là, il va rencontrer l'artiste futuriste italien Carlo Carra. Puis, il va être à Rome, à Paris, début 1920, et il va être proche du groupe surréaliste. Alors, ses œuvres, dans les premières œuvres, nous avons, je cite, Prométhéo en 1908, beaucoup de symbolisme, étrangeté, un récit mythique, la représentation renvoie à la spiritualité. Une deuxième œuvre, le Sphinx, 1908-1910, le Sphinx, c'est le pendant féminin du Sphinx, symbolisme d'inspiration romantique. 1910, un portrait de son frère Andrea, et l'on voit déjà à gauche de la fenêtre la présence d'un centaure. Alors, sa première œuvre métaphysique, 1909-1910. Voyage à Florence, il étudie l'architecture, études spirituelles aussi dans la société, dans les cercles intellectuels, on pratique l'occultisme. Et puis, il a une révélation à la Piazza Santa Croce à Florence, et cela donnera un tableau appelé « L'énigme de l'oracle », Florence 1909. L'œuvre s'inspire de l'Odyssée d'Homère, 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons Ulysse qui se trouve chez Calypso, qui le retient pendant quelques jours, 7 jours sur son île, et sera délivré par Hermès. Ulysse repartira vers Ithaque. Donc, il nous parle du temple, du temps qui passe dans son tableau, personnage masculin mélancolique. Le temps semble suspendu à l'extérieur et le temps passe à l'intérieur. Le vide de l'espace est très important. Derrière le rideau, nous avons l'oracle, et vous savez très bien que dans la tradition antique, l'oracle est caché. Un deuxième tableau, l'énigme d'une après-midi d'automne. Tableau remarquable, espace avec des êtres humains à gauche, petite place face à l'immense statue et le temple. Ligne d'horizon est coupée par un mur, énigme de l'oracle qui est transformé en un monument, c'est la statue qui est peut-être un poète, un philosophe ou un oracle. L'absence de sujet iconographique en fait une œuvre très caractéristique. Derrière le mur, c'est la vie, le mouvement. Il va subir l'influence du poète italien Leopardi, qui est un poète important après Dante, et qui disait, ce poète, je cite, « Ce que l'on ne voit pas est plus mystérieux et poétique que ce que l'on voit. » Il sera aussi influencé de Chéricault par Nietzsche. Il lira beaucoup les écrits de Nietzsche. À partir de ces deux tableaux, nous voyons qu'on sait le thème de l'être humain confronté à la nature et à l'imaginaire. Un tableau, l'énigme de l'heure, 1911, on voit que c'est une synthèse plastique. Tout détail naturaliste est éliminé. Une horloge sous l'arcade, avec un temps figé. Espace d'immobilité dans le tableau, mais plein de détails qui bougent. Arcade semble être vue de gauche, étrangeté. Chéricault fait intervenir des détails pour rompre la monotonie. Autre tableau, les joies et les énigmes d'une heure étrange, en 1913. Les énigmes d'une journée, 1914, en deux parties. Méditation automnale, 1912. On voit la présence d'une canne à gauche contre le mur, qui note la présence d'une trace humaine. Ce tableau est très intéressant, je vous le conseille vivement. Ensuite, Chant d'amour, très important, 1914, un de mes préférés. La sphère en bas à gauche est une balle de tennis. Sculpture classique, un gant rouge de chirurgien sur le tableau et un train au fond derrière le mur, une locomotive. Il est au MoMA à New York. Enfin, un de ses chefs-d'œuvre emblématiques, Hector et Andromaque, 1917. Il est mobilisé à Ferrare, nous l'avons vu, et démobilisé pour dépression à l'hôpital, il rencontrera Carra. Dans ce tableau, Hector et Andromaque, on voit Andromaque, et en grec c'est celle qui combat les hommes, c'est une Troyenne, femme d'Hector, c'est un modèle d'épouse, fidèle, elle résiste, elle est toujours amoureuse. C'est l'archétype du couple dans la tradition artistique. Là aussi, dans ce tableau, l'architecture semble faire partie de l'espace. Arrivée des mannequins, qui évoquent aussi presque des robots, construction du corps par des plaques métalliques avec des rivets, décomposition du corps évoquant le cubisme. Enfin, un tableau en 1912, La matinée angoissante, on voit des arcades en enfilade vers la ligne. 1912, La matinée angoissante, arcade en enfilade vers la ligne d'horizon, contraste des couleurs claires et sombres. Un tableau mystère et mélancolie d'une rue, fille avec cerceau, j'aime beaucoup ce tableau. On en note un espace public et désert, une petite fille courant avec un cerceau, présence de l'ombre d'une statue, là aussi arcade en enfilade, sombre et lumière. Giorgio de Chirico est un grand lecteur de Nietzsche. Il reconnaît lui-même la filiation avec Nietzsche et Schopenhauer. Donc on voit aussi la relation entre De Chirico et les poètes surréalistes. De Chirico va avoir une influence majeure sur la naissance du mouvement surréaliste, André Breton, Aragon, Paul Éluard, qui vont découvrir ces tableaux dans les années 1910-1920. Ils vont le considérer comme un précurseur du surréalisme. Ses œuvres sont pour eux une révélation. Mais en 1926, rupture violente avec le surréaliste, le mouvement le renie. Donc on voit que De Chirico présente une œuvre singulière dans l'art du XXe siècle, peinture métaphysique avec des espaces urbains étranges, désertés, le temps semble suspendu. Réalité cachée, énigme, étrangeté, réflexion sur l'aliénation moderne, influence majeure sur le mouvement surréaliste, sa filiation, Dali, Magritte. Je vous remercie. À la prochaine fois.